48 FM.
Les Slick John au couloir en numéro 2, allez les Slick, c'est parti pour les Slick John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Peter Marquet, je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant, Alex, la France entière.
Parker inside, pretty play from Tony Parker.
Du tas de apéro.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.
Tu t'as dit apéro ?
Allez Louis !
Allez mon petit bonhomme !
Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce 53e épisode de l'Instant Sport. C'est la reprise, c'est la rentrée avec tous nos chroniqueurs ici présents. Avec son teint allé, dû à une surexposition au soleil, on dirait une statue grecque. Laurent Julien, bonjour.
Oui, bonjour tout le monde.
Par contre, tu n'enlèves pas ta feuille de vigne, s'il te plaît.
Non.
Enfin, on pourrait parler de feuille de cerisier, plutôt, ou de bonsaï.
Ah, il se moque.
Allez, lui, il n'a pas trop vu le soleil, car il a passé son été dans les bars. Capitaine du BCM, Aurélien Lacaze, bonjour.
Bonjour à tous.
Tu t'es bien hydraté cet été, tu as passé un bon
été. Oui, très bien, un coup de sirop de grenadine et de jus de pomme, parfait.
Ouais, c'était pas trop notre réunion de rentrée, Patrick, il a pas trop bu ça. Hein.
Ouais, je confirme, c'était du raisin, mais pas du jus de raisin, fait ici, sorte de jus de raisin, mais quand même alcoolisé.
Fermenté,
quoi.
Hein. Voilà, exactement. Voilà, notre couteau suisse, journaliste sportif à Lausanne Nouvelle, Patrick Biancon. Toi, tu es parti à Rio cet été, mais sans bouger du canapé.
Ça va, je suis pas fatigué, pas le décalage horaire, aussi un peu la nuit quand même, pour essayer de voir quelques épreuves, en particulier le 100 mètres et la natation. Bon, je me suis régalé 15 jours, comme beaucoup de Françaises et de Français. Et ouais. Bonjour à toutes et à tous, et très heureux d'être présent encore pour cette nouvelle saison de l'Instant Sport. Et puis, tu as parlé de Laurent, mais tu as oublié quand même de signaler qu'il porte un maillot quand même mythique qui m'a fait rêver en entrant, puisque il était de dos. Donc, j'ai vu que c'était le maillot de Carlos Moser, l'emblématique défenseur de l'OM. Et donc, maillot de Marseille,
Carlos,
magnifique. Magnifique
Carlos,
maillot.
Manque.
Alors, ce qui est bien,
oui, tu nous manques beaucoup.
Il a la poche pour les cartons. C'est bizarre.
Exactement.
Ça. Moser, il se les mettait. Il s'auto-mettait des cartons rouges. On dirait un mot sur les Jeux Olympiques de Rio à la fin de cette émission. Alors, si vous avez loupé le beach volley féminin, Laurent pourra vous éclaircir un peu, parce que c'est la seule épreuve qu'il a vue.
Voilà, tout à fait. C'était pas mal. C'était passionnant.
Alors, notre ami Luc Respon, parti vers d'autres projets à Montpellier. Nous sommes allés piocher dans notre liste de réservistes. Et c'est notre Adil Rami à nous, journaliste sportif à Midi Libre. Christophe Castieux, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette belle famille qu'est l'Instant Sport. Alors, on va commencer par une question.
Je trouvais que Luc avait vachement maigri, mais d'accord. Salut, Christophe.
Une question pour commencer. Penses-tu, comme ton prédécesseur Luc Crespon, que Jérémy Morel est le meilleur arrière-gauche du championnat français?
Ah, tout à fait. Le meilleur.
Ok, ben ça part bien. Allez, c'est une première émission avant un Instant Sport exceptionnel lundi prochain qui n'aura pas lieu à 12h30, mais à 18h en direct et en public du bar Le Commerce à Mende avec 4 invités qui seront Loïs Morisson, le coach du RCML, Pascal Daudet du MGC, Constant Chouassi du MVL et Laurent Fébrère de l'AFL. C'est Johan pas mal, Fébrère. Patrick. Johan, pardon, ouais. Fébrère de l'AFL, c'est pas mal, Patrick.
Excellent. Les quatre sports collectifs les plus emblématiques demande une belle émission en perspective.
Avec quatre coachs qui ont connu quatre succès la saison passée, avec quatre accessions. Donc voilà, on va se régaler.
Ouais, c'est un joli plateau. C'est un joli plateau, ouais. On va avoir l'occasion justement de parler de la saison à venir avec eux. Ça va être très intéressant,
je pense. Et puis on va voir s'ils sont bons à l'apéritif aussi, parce que bon, à 18h au commerce, bon, on verra. Ouais.
Et on attend aussi également les joueurs, hein, bien sûr, de ces quatre clubs pour venir écouter l'émission et boire des coups avec nous.
Et sauf ceux du Handel, parce que alors là, sinon, on est cuit.
Les volets sont pas mal.
Leur conseille de venir assez tôt, car paraît-il, la nouvelle promotion de l'école d'infirmières de Mende ayant appris ta venue, Laurent, au commerce, se serait donné rendez-vous lundi prochain.
Mais au Paris.
Au Café Mende, au Latina. Tiens, d'ailleurs, je salue Angélique, ça fait longtemps que j'ai pas dit bonjour. Trêve de balivernes, on va démarrer par parler de football, vu que l'AFL a repris maintenant depuis 3 journées. Et au vu des résultats, cela va être dur de tirer des enseignements, des conclusions, car il y a une victoire, un nul et une défaite ce week-end à domicile face aux Corses de Borgo. C'est un bilan équilibré, finalement. Patrick, toi, tu as pu voir 2 de ces matchs. Laurent, tu as vu l'intégralité.
J'en ai vu qu'un.
Ah, tu en as vu qu'un. Ouais. Tu as vu le dernier. On va commencer par Laurent, alors, qui a vu les 3 matchs. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur ce début de saison?
Ben voilà, donc c'est une accession à un CFA2, donc un nouveau championnat, des nouvelles équipes qu'on ne connaît pas. Donc on a attaqué par deux équipes auvergnates, où clairement on a été largement meilleur que ces deux équipes. Donc ça a laissé augurer une bonne suite, malgré qu'on s'est fait égaliser voilà, à Cournon injustement. Bon. Sur ce match, on laisse échapper 2 points, mais on a vu une équipe très joueuse avec beaucoup d'occasions. C'est vrai qu'on joue avec quand même quasiment 4 attaquants, plus des défenseurs qui viennent apporter leur soutien, je pense aux latéraux. Donc du coup, il y a du jeu, il y a du spectacle. Bon, malheureusement, quand tu joues avec 4 attaquants, eh bien, tu t'exposes un peu plus et il arrive, ce qu'il arrive quelquefois, c'est que tu prends des buts. Donc ce qui s'est passé ce week-end contre les Corses de Borgo, où il y a eu quelques mésententes qui nous ont plombé la première mi-temps et puis après c'est dur quoi, c'est très dur de revenir.
Alors première émission d'entrée, bim, tu remets en cause la stratégie du coach. Bravo.
Pas du tout, pas du tout, parce que au contraire de voir un jeu porté vers l'offensive, je crois que c'est tout supporter veut voir ça. Bon, ben il faut savoir qu'on va prendre des buts, mais on va aussi en marquer. Alors là pour l'instant les réglages ne sont pas encore tout à fait prêts puisqu'il y a quand même des nouveaux joueurs. Donc il faut le temps que ça se mette en place, un peu plus de rigueur et de concentration. Et puis ça viendra et on fera un bon championnat, j'en suis persuadé.
Christophe, la CFA2, on voit, c'est un autre niveau que la division inférieure. Hein.
C'est sûr, il faut être efficace et visiblement c'est un peu le problème. Je voudrais juste préciser que moi je ne les ai pas vus jouer, mais que je trouve qu'ils jouent très bien.
Ah bah c'est déjà pas mal.
C'est pas mal.
C'est comme le BCM. On dit ça aussi chaque année, mais après, quand on va aller voir jouer, on dit plus. Patrick, sur ce match Corse, tu as expliqué en off, juste avant l'émission, que tu avais un sentiment mitigé. C'était un match un peu étrange.
C'est mon sentiment. J'ai vu un match un peu vraiment bizarre, où on a eu l'impression, je dirais, dans la première demi-heure, même si on n'a pas réussi à marquer, j'ai eu l'impression qu'on allait dominer assez facilement ce match. Et dans ma tête, je me disais peut-être 2-3 buts d'écart. Et puis, il y a eu cette erreur défensive, un but vidéogag, comme on appelle. Et donc, qui a...
Une barre à B, on dit maintenant.
Voilà, qui a complètement déréglé la machine. Et donc, le deuxième but après est venu de suite après, 2 minutes après. Donc, 2-0. Le but de Diallo dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, on laissait penser à une deuxième mi-temps qui serait vraiment emballée. Ça a été le cas. Hein. Il faut quand même reconnaître que l'AFL a fait les efforts nécessaires pour revenir. Mais j'ai vu une équipe corse qui est montée en puissance au fil du match et qui était maître vraiment dans l'art du contre. Et le troisième but est venu un peu crucifier cette équipe mandoise. Bon, Diallo a marqué un deuxième but, superbe d'ailleurs, hein, sur un magnifique centre de Régis Brunel, une recrue, les deux recrues, hein, centre de Régis Brunel qui jouait à l'UNL pour Abdoulaye Diallo qui jouait à Marvejol l'année dernière, ça fait 3-2. Et puis après ça a poussé, il y a eu quelques décisions arbitrales aussi, il faut le dire, qui n'ont pas été en faveur de l'AFL. Et puis cette tête de Pierre Tessier dans les arrêts de jeu de la deuxième mi-temps qui est venu fracasser le poteau, le gardien est archi battu sur une corner de Fadil Zanina
qui avait aussi préalablement fait une équerre aussi. Bon, donc ça ne voulait pas.
On voit voilà beaucoup d'occasions pour l'AFL et puis une équipe corse qui finalement au début paraissait pas dangereuse mais qui quand même réussit à marquer 3 buts. Donc c'est pour ça que ça me fait un sentiment un peu bizarre, mais bon, on a vu. J'ai pas vu les équipes auvergnates, mais bon, Laurent, tu fais déjà le constat. Il y a quand même un niveau d'écart entre ces équipes auvergnates et ces équipes du Sud-Est, puisque les Corses ont énormément l'habitude de jouer contre ces clubs de Méditerranée. Et on sait que c'est quand même un autre niveau. Et d'ailleurs, le président Laurier, c'est pas caché. Hein, il voulait aller dans n'importe quel groupe, mais surtout pas dans ce groupe Sud-Est. Et bon, voilà. Donc on voit que dès qu'il y a une équipe du Sud-Est qui vient, tu vois de suite une autre dimension quand même.
Puis il faut quand même reconnaître que quand tu laisses 1 ou 2 buts d'avance aux Corses, psychologiquement ils sont très forts.
Ouais.
Donc ça s'est avéré ainsi. Il va falloir dans 15 jours, puisqu'on reçoit Lille-Rousse dans 15 jours, ne pas commettre les mêmes erreurs et puis évidemment marquer en premier.
Lille-Rousse en difficulté. C'est quoi ce but gag? Qu'est-ce qui s'est passé?
Il y a un ballon anodin en profondeur et donc il y a Michael De Freitas qui protège le ballon, qui se dirige vers le but. Donc notre gardien Johan Musi s'approche, il est à la limite des 18 mètres. Alors il hésite un peu, bien sûr, pour pas prendre le ballon en dehors de la surface. Et donc Michael De Freitas met son corps en opposition, il protège le ballon, donc à toi, à moi, le ballon va rentrer dans la surface, et puis finalement, on a l'impression presque qu'il se télescope un peu entre eux, et donc le ballon ricoche, et donc il arrive dans les pieds de l'attaquant de Borgo, qui a plus qu'à pousser le ballon dans le but vide, donc voilà, un but vidéo gag, comme on appelle.
Sauf qu'on n'a pas eu les 500 euros pour,
pour la meilleure vidéo.
Pour avoir envoyé la vidéo.
Mais ça marche plus, ça.
Ah ouais?
Ça n'existe plus depuis 96. Diallo qui cartonne un doublé. Il en a combien? 3, 4 buts déjà?
Il y a 3 buts, puisqu'il avait marqué le premier match contre Chamaillard. Il n'a pas marqué contre Cournon. Et donc, il avait fait un doublé. Il y a 3 buts en 3 matchs.
Alors, si j'ai une question qui me vient d'ailleurs avec Fadil qui n'a pas encore marqué.
Si, il a marqué
un pénalty à Cournon.
Oui, pas dans le jeu. Oui. Est-ce que ça ne pose pas problème cette entente?
C'est clair, j'ai été le premier à le dire, moi, après le match, quand on discutait avec certains dirigeants. Je ne sais pas si tu étais là, Laurent, si, je crois que tu étais là, quand on en a discuté.
Oui, oui.
Donc, j'ai fait ce constat-là, moi, personnellement. Alors, c'est paradoxal, parce que tu vois, Ndiallo, donc, c'est vrai, qui s'est super bien adapté, au niveau, moi, j'en doutais pas. Je savais qu'il avait largement le niveau de CFA2, je le répétais depuis plusieurs saisons, donc je ne suis pas surpris de son adaptation. Donc, il s'est super bien adapté à l'équipe. Et puis, paradoxalement, on voit, mais autour de lui, Fadil, qui est obligé de revenir dans le cœur du jeu pour toucher des ballons, alors qu'on préfère Fadil dans la surface, où sa dextérité est quand même son atout majeur depuis 7, 8 ans, 9 ans qu'il est à la FL. Donc voilà, un nouveau rôle pour Fadil, et puis surtout un nouveau rôle pour Dorian Rebolloso, qui du coup est obligé de s'exiler sur le côté gauche. Il est bien évident que le coach ne peut pas jouer à 3 dans l'axe, puisque déjà il joue à 2 attaquants axiaux entre Fadil et Abdou Diallo. Donc Dorian est obligé de s'exiler sur le côté gauche. Alors il fait le taf, puisqu'il défend super bien, mais il le faisait aussi. Mais il est moins, il me pèse au moins, c'est l'impression que j'ai eu, il pèse beaucoup moins sur le jeu que ce qu'il faisait la saison dernière. Alors c'est paradoxal, tu as récupéré un super Diallo, mais tu as l'impression que tes deux autres bijoux attaquants que tu avais l'année dernière, sont un peu moins présents.
Il faut peut-être du temps, justement, voilà, de leur temps de travail, Aurélien.
Après, il n'y a pas que les buts qui comptent, il faut voir aussi son impact dans le jeu, tu en parlais. Moi, j'ai vu quelques vidéos de résumé du match où il est quand même toujours présent dans les appels, dans les passes décisives, etc. Donc, c'est vrai que s'il est un petit peu en retrait, mais qui compense le manque de buts par des actions décisives, d'autres actions pour le bien de l'équipe, c'est peut-être aussi pas plus mal s'il se partageait les rôles.
Tu as raison, puis Laurent l'a dit aussi, tu parles des 4 attaquants, bon, c'est clair, puisque aux 3 qu'on vient de citer, il y avait Ibrahima Mbou qui jouait ailier droit, mais on peut même dire en même 5, puisque tu as quand même Yanis Garbi, donc qui est quand même milieu offensif, même l'année dernière on l'a vu jouer sur un côté attaquant, sur un côté, et là il joue quasiment milieu défensif ou milieu relayeur, donc tu joues quasiment avec 5 attaquants.
En fait, on joue en 4-4-2, mais inversé.
Voilà.
C'est tableau noir inversé.
Non, mais tu es dans une sorte de 4-2-4, mais avec donc un des deux, donc tes demiers défensifs, un des deux qui est vachement offensif, puisque c'est quasiment un attaquant reconverti au milieu avec Yanis Garbi. Et l'autre milieu, c'est Florian Fedal, qui lui aussi est plus un milieu relayeur porté vers l'attaque. Donc tu vois un peu quand même.
Oui, et puis à cela, tu rajoutes aussi le petit Robert.
Exactement.
Qui s'est encore illustré sur le poste d'arrière-gauche.
Le grand Larousse.
Un ancien attaquant, donc il aime beaucoup monter, ce qui est super dans le foot moderne. Mais ça veut dire qu'il est au moins 6 joueurs qui sont en haut à ce moment-là, quoi. Mais bon, voilà.
Ouais, moi en tout cas, je découvre cette équipe et j'entends le coach qui assume totalement cette façon de jouer avec beaucoup d'attaquants, avec le fait que en contrepartie ils peuvent prendre des buts, mais ça me plaît beaucoup, quoi. Je trouve que c'est intéressant. À une époque où on est un peu plus épicier, voilà, de déclarer on va attaquer, et puis voilà, il y a des choses à régler, des gens à intégrer, des gens
qui étaient là, qui doivent s'adapter. Mais je trouve que c'est intéressant d'attaquer la saison comme ça.
Surtout en étant promu, c'est exactement. À la limite.
Il faut féliciter le coach Fébrière de la philosophie de jeu qu'il veut mettre en place. Bon, il est vrai que c'est l'année ou jamais. Hein. Il a entièrement raison, puisqu'on sait qu'il va y avoir une refonte totale des championnats la saison prochaine. Ces groupes de CFA2, il y aura une seule descente. Bon, ben, pour le groupe de l'AFL, c'est déjà réglé, puisque Evian, Tonon Gaillard, la réserve et le club tout entier est forfait général. Il n'y a plus que 13 équipes dans le groupe de l'AFL. Donc c'est vrai que c'est l'année ou jamais, justement, de mettre ce football offensif.
Il ne peut pas y avoir de descente. L'AFL ne peut pas descendre.
Si tu lis les textes de la fédération, suivant comme tu le prends, tu peux peut-être croire que le 13e va descendre. Mais à mon avis, il faudrait vraiment un enchaînement incroyable. Et à 95%, les 13e de tous les groupes de CFA2 vont se maintenir. Il y en aura peut-être un ou deux de ces 13e qui descendront. Et encore, il faudra voir en fin de saison.
De toute façon, avec l'effectif qu'on a... et la philosophie que tu disais d'un football total, on va dire.
Non mais c'est vrai, j'allais le dire.
Football total.
Tu as entièrement raison.
On va pas quand même viser la 12e place. Quoi.
Tu as entièrement raison, c'est vrai.
Il ne faut pas se mentir.
Tu as l'effectif, c'est vrai.
Si on peut pas descendre, en plus c'est aussi l'occasion justement de tester ce genre de tactique offensive, étant donné qu'on n'a pas l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, c'est vrai qu'on peut tout se permettre.
À la sortie du stade, samedi soir, bon, les gens étaient déçus parce qu'il n'y a pas eu la victoire ou il n'y a pas eu ce point du match nul qui aurait été largement mérité. Mais tout le monde était conscient et avait pris plaisir dans ce match de voir des garçons qui mouillent le maillot, qui vont vers l'avant, qui chipotent pas, ils y vont et... Non, c'est vraiment sympa.
Oui. Et mis à part ce match où on a pris trois pions, le premier, le public est là. Prend qu'un but, le second aussi on prend qu'un but.
Ça fait 2-2.
Ça fait 2-2. Ouais.
Le public répond présent, on peut le dire. Il y avait des tribunes bien garnies samedi soir.
Il y avait la promotion d'infirmière qui est à côté de Laurent.
Ah, mais franchement, il y a un public qui est là, qui est en attente, qui veut voir du jeu. Donc, je pense que le coach Fribourg, on l'interrogera lundi prochain, mais je pense qu'il a raison de poursuivre dans cette voie.
Cela dit, il voudra quand même éviter de prendre 3 buts par match, c'est évident. Et donc, il va repenser un petit peu.
Non, mais quand tu as pris 6 buts en 3 matchs, n'importe quel coach de football que tu vas interroger, moins de 2 buts par match, il va te dire c'est trop. Il faut que tu sois à 1, parfois même à moins de 1. Donc, c'est vrai que c'est une moyenne que tu ne peux pas tenir sur l'ensemble de la saison.
Et t'en as mis 7.
Voilà.
Ouais, ce qui est bien.
Moi, je reviens sur les attaquants. On parlait tout à l'heure justement
de...
Sur les attaquants, je reviens un peu sur ce point-là. J'ai envie de dire, abondance de bien ne nuit pas, puisqu'on voit que Diallo a pris un carton rouge.
Il a vraiment passé son été dans les bars.
Diallo a pris un carton rouge et va être suspendu. Donc c'est vrai qu'il y a aussi une gestion de l'effectif et de l'équipe pour toute la saison qui est importante. Et donc c'est pas plus mal d'avoir plusieurs armes offensives.
Exactement.
Diallo est impressionnant de la tête. Hein. Il y a eu pas mal de longs ballons. Il a gagné combien? 95% de
le premier but qu'il marque, il se le fait tout seul, puisque donc c'est un long ballon à la surface. Contrôle de la tête et tête appuyée pour finir le boulot.
Non, mais c'est vrai qu'il dévie. Quand tu vois des grands attaquants par la taille, tu en vois certains qui dévient les ballons, mais dans la majorité des cas, le mec il dévie le ballon, mais n'importe où. Et donc, en fait, c'est comme s'il avait perdu le ballon. Mais c'est vrai que dans la majorité des cas, il dévie le ballon, mais tu vois qu'il essaye quand même de dévier intelligemment et qu'il a repéré avant où mettre son ballon. Et bon, c'est là où il manque un peu de cohésion avec ses coéquipiers, parce qu'il y a tout un tas de ballons qu'il a bien déviés dans des endroits du terrain qui pouvaient être dangereux, mais... on voit aussi bien Fadil que Dorian Rebolloso ou même Ibou Mbou sont pas assez proches de lui, ils ne sentent pas à quel endroit il va dévier et quand ils vont vraiment se connaître, ça va provoquer à mon avis vraiment des situations chaudes sur les buts adverses.
Christophe ?
Ouais, j'avais juste une question à poser à mes deux camarades qui ont vu les matchs, c'est ce genre d'attaquant, est-ce que le risque, c'est pas que l'équipe joue un peu systématiquement de grands ballons sur lui?
C'est vrai qu'on l'a vu, on l'a vu parfois un peu de manière répétée ce match de samedi contre Borgo. Mais bon, il faut dire quand même qu'il y a eu énormément, ça a entraîné énormément de situations dangereuses pour l'équipe adverse.
C'est vrai que un peu plus que d'habitude, il y a eu de longs ballons. Mais enfin, bon, il faut quand même jouer avec les atouts que tu as. Et quand tu as un atout comme ça, c'est ballot de s'en priver, quoi, à mon avis.
Alors, il y a Saint-Priest qui en a mis 5 à la réserve de Saint-Etienne.
Hein, j'ai l'impression que Saint-Etienne, la réserve, est un peu encore en vacances, là.
Ouais,
à ce début de saison, mais aussi dans cette tier qui n'a pas de descente.
Une victoire, deux défaites.
Bon, ouais, ils sont un peu dans le zig, puisqu'ils avaient pris aussi un carton. Donc, contre Bastia, il y avait un dirigeant corse qui le disait... qu'il avait des échos sur cette équipe Saint-Etienne qui avait voyagé un peu light sur les premiers matchs de la saison.
Ouais, et Chamalières qui est justement allé chez la réserve de Bastia qui a perdu seulement 2-1, donc c'est de bon augure pour nous. Après, côté résultat, il y a Louan Cuiseau qui fait sans faute.
Trois victoires.
C'est étonnant, je ne voyais pas cette équipe.
C'est un club historique du football français puisqu'ils ont joué en deuxième division pendant fort longtemps. C'est la fusion de deux petits villages, hein, puisque je pense que si tu cumules les populations des deux villages, tu arrives à peine à la population mandoise. Et donc, bon, après, économiquement, c'est compliqué le monde professionnel pour ces petits patelins. Donc, ils ont connu une traversée du désert. Et puis là, bon, ben, ils sont en CFA2. Et bon, il faut voir si cette équipe, si elle a les moyens de vraiment lutter pour la lutte, pour la montée.
Bourgoin-Jallieu aussi, on parle de rugby, hein, équipe de rugby qui est second. Et Borgo, donc, avec un match de moins, deux matchs de victoire.
Deux victoires pour Borgo, qui a battu les Corses.
Mais vous savez, avec un point plus de réussite et de sérieux, allez, je vais dire le mot sérieux, on y était aux 9 points aussi, hein, je veux dire.
Eh oui, mais t'y es pas.
Et voilà.
Et ouais. Mais en tout cas, oui, c'est un bon début de saison quand même, quand on voit le déroulé des matchs. En étant promu, mais bon.
Surtout que là, tu vas avoir un break en championnat, puisque la prochaine journée, tu devais justement
jouer
te déplacer à Evian, donc tu seras exempt.
Donc trois semaines alors.
Tu vas avoir que la Coupe de France. Là, dimanche, tu as un déplacement à Rousson, en Coupe de France. Le dimanche d'après, donc tu ne joueras pas, puisque tu as ce match d'Evian. Et si tu bats à Rousson, bon, la logique, bien sûr.
T'assures à Rousson.
C'est clair, mais bon, quand même,
Rousson, qui l'année dernière avait battu Fabregas CFA2 en Coupe de France.
Ça sera compliqué,
compliqué.
Ça sera chaud. Arrête. Et donc, si tu gagnes, tu auras un match de Coupe de France avant de recevoir.
Ils ont quand même battu le Malzieu 12-0.
C'est vrai.
Ah oui.
Tu as fait combien contre le Malzieu ton dernier match?
5-6.
5-6
4-5, tu avais dit non.
Non, je ne vous dirai pas.
Tu vois, alors arrête un peu. Première journée pour Marvejol en honneur régional et première défaite à Metz, 2-1. Une défaite rageante vu que Marvejol était devant après un but de Bamida à la 12e. Puis s'est fait rejoindre à la 90e par Barabour avant que ce même joueur transforme un pénalty à la 93e. Donc on est encore dans le même.
Le pénalty était avant.
Le pénalty était avant.
C'était du 1-1.
Bref, 2-1 perdu à Metz qui était un promu aussi, hein, c'est ça.
Quand même promu qui s'est énormément renforcé et donc qui est ambitieux. Mais bon, quand tu l'as dit, hein, quand tu mènes 1-0 alors que tu vas commencer les arrêts de jeu et puis qu'au final tu te retrouves 2-1, bon, ça m'est arrivé quelquefois moi dans ma carrière de dirigeant, mais je peux te dire que
le retour
au vestiaire et le retour, bon, si tu es à l'extérieur, le retour. est vraiment long, tu rumines et tu te demandes encore comment tu as fait pour pas ramener de points de match comme ça. Donc on imagine toute la déception de cette équipe de Marvejol.
Et puis il faut quand même souligner que Marvejol a perdu 5 joueurs.
Oui.
5 joueurs, c'est quand même la moitié d'un 11 de départ. Donc il faut qu'il
y a eu des recrues quand même.
Il y a eu des recrues, bien sûr.
D'ailleurs, le buteur est une recrue.
Oui, je le connaissais pas.
Voilà.
Il faut que la mayonnaise prenne. C'est pareil. Oui. On en reparlera peut-être après dans d'autres disciplines.
Oui, c'est le premier match. Comme recrue, il y a eu des recrues un peu phares. Patrick, j'ai pas du tout suivi moi.
C'est des joueurs qu'on connaît pas, mais
ça vient de l'extérieur.
Voilà, ça vient de l'extérieur. Et puis bon, Atita. À une filière qui fait ses preuves, hein, puisque bon, on a vu l'année dernière des recrues vraiment hyper performantes. Donc là, on peut s'attendre aussi au même recrutement. Et puis d'ailleurs, tu as vu le buteur qui joue pourtant défenseur latéral, qui a marqué ce but pour Marvejol. Donc il faut faire confiance à Atita, qui a quand même là une expertise incroyable et qui relance des joueurs. Bon, après, le problème de Marvejol, ça sera comme toujours la profondeur du banc et l'effectif, qui, d'après ce qu'on m'a dit, est encore plus limité que l'année dernière. Donc déjà, c'était déjà dur pour lui de faire son équipe l'année dernière. Et là, j'ai l'impression que cette année, ça va être encore plus compliqué.
Donc j'ai vu même que le dernier des remplaçants était autre que le coach, quoi.
Voilà.
Le coach était sur le banc de touche. Bon, le coach qui est encore de Borest, certainement, je ne veux pas dire. Mais bon, voilà, ça veut dire que s'il se met, c'est qu'il n'a pas d'autres joueurs, quoi. Mmh.
C'est sûr. Il faisait une doublette Diallo avec quelqu'un qui marquait énormément de buts aussi l'an dernier.
Il y avait Diabaté qui,
Diabaté,
qui est resté
il
au
est
club.
Il y a encore
Diabaté. Il y a toujours. Et puis, ouais. Tu as Pape Endour aussi.
Pape Endour, il y a aussi.
Qui est aussi bon, un joueur très fin, très, très sec, un petit là, hyper rapide sur l'aile et qui est toujours en mange. Là.
Ils sont toujours tous les deux.
Diallo, perdre Diallo, c'est pas anodin, quoi.
Enfin, ça va leur manquer, ça.
C'est vrai que c'est compliqué. Mmh. Et bon, maintenant que tu as un CFA2, si ce Diallo continue à performer comme il le fait depuis des
années. Tu risques de le garder.
À la EFL, voilà, tu l'as dit, parce que bon, maintenant que tu as un CFA2, il y a tout un tas de clubs professionnels, c'est-à-dire de Ligue 1 et de Ligue 2, qui, chaque week-end, envoie des superviseurs sur ces terrains, entre guillemets, improbables de la CFA et de CFA2.
Tu peux
et
finir donc, à Marseille, hein,
il y a tout un tas de joueurs qui, chaque année, signent des contrats professionnels alors qu'ils jouent à CFA et CFA2.
Ils ont signé combien de mecs de CFA2 cette année, Marseille
ils ne sont pas allés jusque-là, mais il y a un club qui joue en Ligue 1 qui s'appelle Dijon, qui est spécialisé dans ce genre de recrutement et qui, chaque année, prend deux ou trois joueurs de CFA et CFA2.
Ouais. Et le recruteur qui s'occupe de toute la région est un Lozérien à Dijon. Alors j'ai imaginé le nom, c'est un ancien joueur de l'ENL.
Très bien, mais on va parler d'ENL justement. Merci de la transition, Laurent. En Auvergne régionale, première journée, première défaite pour l'ENL à Saint-Georges, 2-1. But pour l'EFL à la 50e de Makoubi. Alors parfait, je connais pas.
Nouveau joueur aussi.
Ouais. Hein. Alors trop tôt également pour tirer des enseignements. Laurent, toi qui as des informations de ce club de l'ENL, tu as eu des retours?
Oui, alors l'ENL qui a
donc vécu... Donc ça veut dire... Alors Christophe, quand il commence comme ça, ça veut dire qu'il n'a pas du tout de retour.
Quand il dit ouais,
et ouais, okay. Et qu'il prend sa grosse voix, bon, il n'est pas du
alors,
tout
au courant. Non, je dis un petit peu, l'ENL a vécu une intersaison assez mouvementée quant au départ.
Une intersaison.
Oui. Très, alors j'allais dire mouvementé, mais très mouvementé, puisque
parce que la mère d'Aurélien, tu sais qu'on fait des fautes.
Chantal,
attention,
elle nous écoute.
Elle fait les retours après.
Je suis navré. Et j'en ferai d'autres, d'ailleurs. oui, donc le ENL qui a perdu beaucoup de joueurs, on va dire cadres, qui étaient cadres, les anciennes de l'équipe. Donc du coup, ils partent un petit peu dans l'inconnu. Ils ont réussi à recruter une paire de joueurs, mais ils ont perdu leur attaquant qui marquait beaucoup de buts, Régis Dossou avec BT. Un défenseur, là, un grand black costaud aussi, là, c'est pas Basile Boli, mais presque, qui est parti. Vivien Fontune qui a arrêté.
Non.
Régis Brunel qui est venu à Mende. Donc du coup, des anciens, ben, il reste plus qu'un des frères Rousset et puis le gardien Cyril Chabrin. Donc voilà, après c'est qu'une bande de jeunes. Donc ils ont recruté un Mandois
Mordac,
voilà, j'ai perdu son nom.
Ivan Mordac,
un défenseur. Mais sinon, ils partent vraiment dans l'inconnu. Donc on leur souhaite bien évidemment de faire une saison honorable, de se maintenir le plus tôt possible. Et on souhaite, voilà, une bonne saison au club, sympathique club de l'ENL.
Alors ils menaient 1-0, ils ont pris deux buts après.
Tu as dit première journée, mais c'est...
La première journée, j'ai dit.
Donc c'était la deuxième journée.
Ah, c'est la deuxième.
Donc ils n'ont pas dû au domicile le premier match, donc ça fait dommage de défaite. Donc bon, on sait que ça va vite.
Dans ces c'était peut-être contre les deux meilleures équipes aussi, il faut pas... Ils avaient perdu contre le Puy. Le premier match, le Puy, c'est toujours costaud, réserve de CFA, qui marche très très bien en CFA, le Puy.
C'est vrai.
Donc voilà, il faut
est-ce qu'ils vont jouer sur le stade maudit de Saint-Alban?
Pour le moment non, puisqu'il fait beau, mais je pense qu'après, au cours de l'hiver, ils réintégreront le gazon synthétique de Saint-Alban.
Est-ce qu'on a d'autres résultats de clubs de foot? Est-ce que vous avez vu qui pourrait intéresser nos auditeurs?
Finalement, le week-end a été maudit pour tous les clubs lausériens, puisque j'ai vu qu'après Marvejols qui perd, l'AFL qui perd, l'ENL qui perd, Langogne a aussi perdu. Voilà.
À domicile aussi.
Pas super week-end pour le foot lausérien, quant au résultat, évidemment.
Ok, merci.
Et après, il y avait le premier match du championnat des DFL. Ouais, avec mais bon, toi, tu jouais pas parce que tu étais.
Non.
T'étais, il a changé de baptême. Tu étais de baptême. Ouais, bon, voilà.
Non, mais il a changé de sport. Mais on y reviendra. Ça, ouais.
Non, mais j'ai pas trouvé les résultats d'un midi libre. Excuse-moi, Christophe. Et du coup, je suis allé voir sur le site de la fédération française. Il n'y avait pas les résultats non plus. Donc je veux dire.
Pourtant, il y a eu des matchs. Il y a eu des matchs pourtant.
Je sais que le Valdonnès a éclaté l'équipe 2 du Buisson 6-1. Que l'équipe 3 de l'AFL a éclaté Chirac 1-0. Mais après, j'ai pas d'autres résultats.
Ok, merci. On va vite passer sur les autres sports parce qu'il n'y a pas eu de match à part le hand où on va rester un peu plus longtemps. Il est déjà une heure. Voilà, l'émission, on s'est dit, il n'y a pas grand-chose à dire. On va pouvoir parler
beaucoup de sports
internationaux et nationaux. Et pipelettes. Alors, MVL, rappelons que le monde volley Lozère va retrouver cette saison le troisième niveau français, c'est-à-dire l'élite. Alors, pour la préparation, l'élite. Les litres, c'est dans l'émission. Il est prévu ce week-end un tournoi à Reims, il me semble. Après, ils devraient recevoir à l'Est, une date qui n'est pas encore déterminée, avant de terminer leur préparation au tournoi Alain Fabiani de Fréjus. Quelques départs, quelques arrivées. Donc, on fera le point lundi prochain avec Constant Tchouassi, le coach du MVL. On peut dire vite fait départ de Vatea Taoura et l'arrêt en équipe 1 de Loïc Bacan. Côté recrue, le point...
Pour raison médicale, Loïc Bacan.
Pour raison médicale, oui. Ouais. Côté recrue, le pointu Loïc Alphonse, 21 ans, 1m94, élite de Calais, donc pas mal. Le passeur Boris Taka Nico, 24 ans, 1m90, National 3 de Balma, donc c'est deux recrues qui évoluent au même niveau que le MVL va évoluer cette année. L'attaquant réceptionneur Robin Utrel, 24 ans, 1m96, élite Les Herbiers. Et enfin, le central Moussé Gay, 19 ans, qui était dans la réserve, 1m98, et le libéro Anthony Chaillou, 21 ans, 1m75, qui monte de la réserve.
Qui était déjà au club.
1m75, Laurent, t'aurais pu faire une carrière, tu vois.
Ouais. Enfin, il fait 20 cm de moins que ses collègues. Ouais. Mais s'il monte en équipe première, c'est qu'il a du talent.
Oui, absolument.
Et il faut que tu précises que Constant, depuis le 15 août, date de la reprise donc de ses joueurs, c'est deux entraînements par jour.
Oui.
Donc je vous raconte pas les cadences infernales infligées à son équipe par le coach qui il nous le dira lundi prochain, mais je pense qu'il a vraiment d'énormes ambitions cette année pour son club.
Avec quelques séances à Montroda au centre
c'est vrai.
De Montroda.
Il y a le hand qui était ce week-end.
Le hand, donc le volley, ils y sont allés quelques fois aussi.
Il paraît que c'est impressionnant.
Ben on lui demandera, ouais, on lui posera la question. RCML, reprise du championnat senior 24 ou 25 septembre face à Bédarieux, leader de la poule honneur l'an passé, qui a déjà une victoire en amical 4-1 face à Rive d'Orbe. Donc pareil, on aura Loïs Morisson pour parler un peu de cette saison, des recrues, des départs et aussi du coaching.
Il y a eu un changement d'ailleurs au niveau du sujet.
Il y a eu un changement au niveau du staff.
Puisque l'adjoint Pascal Chazalette a décidé pour raison personnelle d'arrêter. Et donc il est remplacé par Eddy Nibili, qui est un joueur emblématique de l'équipe, donc qui met un terme à sa carrière en tant que joueur et donc qui vient donner un coup de main à Loïs.
Je crois que les adversaires se réjouissent de l'arrêt de Nibili sur le terrain, en tout cas.
C'est vrai.
Les mâchoires des adversaires
disent merci. Ok, MGC, les joueurs de Pascal Daudet étaient en week-end de cohésion au centre euro-méditerranéen de Montroda pour la National 3 cette année. Donc l'équipe qui a effectué sa reprise en Coupe de France à Espalion, mais avec de nombreux cadres laissés au repos. Il y a au final une défaite 25-24. Deux départs et non des moindres, hein, parce que c'est quand même Raphaël Voringer à Marseille et Fabien Marty à Toulouse. Fabien Marty, qui était un peu moins bon
buteur,
en fin de saison, mais qui a fait
un début de championnat,
gros début de championnat.
Stratosphérique.
Quatre recrues, donc Mounir Mizouni, 28 ans, qui peut évoluer à tous les postes, qui vient de l'ES Falaise, tous les postes de base arrière et en pivot. Erwan Pau, qui est de retour au MGC après un passage à Frontignan. Kevin Chagnard, passé par le Pôle Espoir de Montpellier, le centre de formation de l'USAM Nîmes, puis la National 3 de Corté. Et c'est un joueur gaucher de 21 ans. Donc les gauchers, toujours intéressant, qui peut jouer arrière et ailier droit. Et enfin, Xavier Fournel, qui arrive de Saint-Flour, où il était capitaine. Ça, c'est pas mal depuis que le capitaine de Saint-Flour que tu vas retrouver.
C'est Xavier Saint-Flour qui vient de Fournel, tu t'es trompé.
Non, pas du tout, Laurent Julien. Alors la poule, on dirait un peu le championnat d'Interville, parce qu'il y a Voiron, Saint-Flour, Valence, Vouan-en-Velin, Annecy, Saint-Priest, Saint-Génie-Laval, Montluçon, Fontaine, Bourgoin-Jallieu et L'Oriole ou Villefranche-Beaujolais.
C'est la poule que les dirigeants voulaient
on va mettre la musique
tomber, puisqu'on le sait, ils préfèrent jouer dans cette poule 7 donc, qui regroupe des clubs d'Auvergne-Rhône-Alpes. plutôt que de jouer comme une année avec cette fameuse poule dans le sud-est où tu vas à Istres, Marseille et même en Corse. Corse. Donc, excellente nouvelle pour le MGC. Bon, comme tu l'as dit, deux départs importants, hein, c'est sûr, mais bon, a priori, des renforts de qualité aussi. Tu as cité ce joueur-là, la base arrière, Misoni. Bon, qui vient du Calvados et qui, bon, paraît-il,
qui a fait une finale à Bercy.
Qui paraît-il a un bras, comme on dit dans le milieu du handball, et donc ça devrait quand même être un plus vraiment non négligeable pour le club.
Et j'ai oublié Laurent Julien comme recrue aussi, parce que Laurent Julien a pris sa licence au monde de cette année.
Voilà.
Ça fait 5 ans qu'il essaye d'incorporer la une de l'AFL, il n'y arrive pas, donc il essaye maintenant le.
Au lieu d'aller chercher des gars dans le Calvados,
tu en as à Mende dans la montée à la rue des Cerisiers.
Voilà, donc du coup, beaucoup de renouvellement au MGC. Moi, j'ai vu un match amical où celui qui m'a le plus impressionné, donc c'était Kevin Chagnard, le gaucher. Il envoie des pastèques. Hein. Quand ça part, ça y va et ça rentre à tous les coups. Bon, voilà, il y a 4-5 recrues plus les deux goals là qui sont actuellement blessés. Donc ça fait beaucoup de changements pour ce début de saison.
Des blessures longues ou ils vont revenir
Bon, c'est musculaire et un poignet, je crois. Donc
poignet, c'est plus embêtant.
Plus ou moins long. Ouais. Toujours est-il que l'équipe est quand même renouvelée majeure partie, donc il va falloir retrouver une cohésion. Donc ce week-end aura certainement permis à ça, et puis retrouver une dynamique et attaquer. Donc je crois que c'est le week-end prochain contre Annecy, il me semble.
17, non, ouais. Non, c'est pas ce week-end.
C'est pas ce week-end, c'est le week-end d'après. À la Vernède.
20h30.
20h30. Donc voilà, après.
Et puis on ne l'a pas dit, mais il y a la blessure au genou en fin de semaine dernière,
oui,
de Maxime André.
Ah oui,
donc
exact.
Qui carrément, en principe, ne va pas jouer de la saison. Quoi. Donc
encore
là aussi,
cette saison encore
ben oui, parce que.
Voilà, comme il s'est blessé en fin de semaine dernière, le genou.
Oui, oui.
Donc il y a peu de chances qu'il puisse jouer de la saison. Donc là aussi, un coup dur, parce que c'est quand même l'âme de l'équipe, aussi bien sur le terrain que dans le vestiaire.
Ouais, surtout qu'il joue la montée.
Donc
hein.
Il y sera toujours dans le vestiaire, puisqu'il oui. fait un office d'assistant du coach de Pascal. Donc il sera toujours là pour amener la grinta, et puis un peu de folie peut-être aussi.
Moi, j'annonce qu'il joue la montée, le MGC. Je les sens bien. Je suis fou là. Je dirais pas pour les autres clubs.
Non, on dira ça à Pascal, on mettra la pression à notre ami Pascal qui nous écoute.
Je sais pas si il va être d'accord avec
la pression lundi prochain.
Allez, rapide, un tour sur le BCM Aurélien. C'est du grand n'importe quoi cette année.
Ah,
qu'est-ce qui se passe alors?
Mais ça n'a pas encore commencé que déjà c'est le bordel, ouais. Effectivement.
Alors, donc vite fait, hein, explique-nous. Donc, vous deviez repartir en départemental héros ou régional héros.
Voilà. Donc,
comme on est le seul club loisirien.
Étant donné qu'on a fait une exceptionnelle saison l'an dernier, on a décidé de pas se réinscrire en région. C'était un petit peu trop facile pour nous. Donc, on a décidé effectivement de se mettre à un niveau départemental. Donc, effectivement, comme on est le seul club de Lozère, il n'y a pas de championnat départemental en Lozère. Donc, il faut qu'on se rattache à un autre département limitrophe. Et donc, on avait demandé fin juin au moment où tout se décide d'intégrer le championnat départemental Hérault, ce qui nous avait été accordé plus ou moins, et puis finalement la sentence est tombée il y a une dizaine de jours.
C'était moins.
Et finalement ils nous veulent pas, puisque pour eux un déplacement à faire en Lozère dans l'année c'est beaucoup trop.
C'est un scandale.
Et donc voilà, on s'est retrouvé fin août en n'ayant pas de championnat, donc on sait toujours pas si on va pouvoir faire de la compétition cette année. Donc on va essayer de demander au Gard ou à l'Aveyron de pouvoir intégrer leur championnat, mais rien n'est fait encore.
Sinon la NBA peut-être.
Mais dans ce cas-là, il faudrait que la mairie augmente un petit peu les subventions pour qu'on puisse faire.
C'est un message.
Non, mais elle est plutôt en Haute-Loire, alors finalement.
Ouais. Mais ils ont perdu leur pivot en plus, donc c'est compliqué. Bon, tu nous tiendras au courant.
Je vous tiendrai au courant.
C'est intéressant de savoir.
Mais bon, ça sent la fin de. Ça sent la retraite.
Ça sent le pâté.
Ah bon, on en rigole, mais c'est quand même assez,
c'est
assez dramatique. Comme
sûr.
Tu dis, Ludo, c'est assez scandaleux parce que, bon, voilà. Il y a une club de l'Hérault. On peut imaginer, il a pas dit, il peut peut-être pas le dire, mais tu peux imaginer que voilà, il y a 3-4 clubs de l'héros qui devait récupérer Mende, qui a dû appeler là-bas le district en disant ouais, attends, tu nous fais chier, on va pas monter en Auxerre. Et donc voilà, après les dirigeants cèdent à cette pression qui est totalement scandaleuse. Mais bon, le foot aussi, Laurent, tu pourrais en parler, le district Garloser, bon, combien de fois aussi il y a des clubs qui montent pas, alors que toi tu même parfois les passer, équipes de jeunes, tu es obligé de descendre en semaine pour des matchs en retard, des matchs de coupe. Donc ce problème-là est bien connu, mais c'est vrai que c'est totalement scandaleux de la part d'un district de l'Hérault de pas accepter le BCM dans son championnat. Et, bon, à l'heure actuelle, avec toutes les technologies qu'il y a, c'est vrai que bon, ça paraît un peu derrière regard. Quoi.
Ouais. Puisque c'est comme ça, on ne parlera pas du championnat départemental de basket de l'Hérault. Ouais, voilà, clair. Bien fait. S'il n'y a pas le BCM, on n'en parlera pas. Bim. Côté actualité sportive, pour finir en Lozère, le 14e tour international féminin de l'Ardèche. Féminin, tour, cycliste, tu es allé, non, Laurent?
Et non, il était de Bataille.
J'étais en Auvergne.
Voilà, c'est la victoire de la Brésilienne Flavia Oliveira, 7e au jeu de Rio. La Française Edwidge Pittel, championne de France sur la route, qui termine seconde de l'étape. Christophe, tu y étais?
Est-ce que tu peux nous dire l'âge d'Edwidge Pittel? Bon, on dit pas l'âge des femmes en principe, mais voilà, quand même. Je dirais qu'elle est pas loin des 50.
Non.
Oh là là.
À vérifier alors, à vérifier. Mais bon,
on va regarder ça pendant la pause.
Ça a été quand même la concurrente de Jeannie Longo pendant des années.
Attends, je les ai notés. Mais ceci dit, non, franchement, c'est énorme comme course qu'ils ont fait. Alors, ça aurait été des mecs. Avec un profil pareil, c'était une espèce d'étape mythique, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas une télé. Je veux bien qu'il y ait des problèmes de crédibilité dans le cyclisme féminin. Quand Longo gagnait à 50 ans, tout ça. Enfin, bon, il y a des choses, c'est sûr, qui accrochent pas forcément le regard. Mais enfin, là, c'était une superbe étape, vraiment, quatre cols. Ça attaquait dès le 10e kilomètre. Franchement, moi, j'en suis revenu, j'ai vu du beau spectacle. J'étais content, il y avait beaucoup de monde. Au Mont-Lozère, franchement, ça mériterait une autre considération, honnêtement.
Ouais. C'est vrai que c'était un beau parcours. Hein.
Non, mais c'est surtout une épreuve dans un calendrier féminin, un cycliste qui est quasiment désertique. Donc il faut vraiment rendre hommage à ces gens, donc à ces Ardéchois qui sont à la base de ce tour et bon, qui ont reçu ici en Lozère, bon, par l'intermédiaire de Claude Tessier, qui est bien connu au Blémard en tant que pompier. Et donc, c'est grâce à lui qu'on a eu une arrivée l'année dernière. Et puis, cette année, on a eu une étape 100% lozérienne, puisque ça partait de Florac. Et donc, l'arrivée était toujours...
Non, mais en plus, si ça attirait du monde...
Au Mont-Lozère. Donc, c'est vrai qu'il faut, rendre hommage à ces bénévoles, parce que c'est que des bénévoles qui se lèvent l'âme toute l'année pour organiser cette course à étapes qui dure une semaine. Donc, je leur tire mon chapeau. Après, comme je l'aurais dit en conférence de presse quand il y a eu la présentation, donc c'est pour ça que je me permets de le redire, puisque je l'ai dit à eux, on était face à face. C'est vrai que tu peux te poser des questions quand tu vois qu'Edwige Pittel
quel âge Aurélien, elle t'a envoyé un message?
49 ans.
Voilà, tu vois, donc je savais qu'elle était plus proche des 50 que des 40. Donc c'est génial, bon, qu'une sportive qui est quinquagénaire soit à un tel niveau, qu'elle soit championne de France, mais vous m'empêcherez pas de penser que d'un côté, ça quand même, ça dévalue un peu. Ça dévalue un peu le sport. Ça dévalue un peu le sport. Donc, j'ai lancé ça en conférence de presse. Donc, il y a eu tout un débat. Bon, bien sûr. Mais c'est mon esprit polémique. Vous me connaissez. Vous me connaissez. Donc, c'était pour remettre un peu d'ambiance à cette conférence de presse. D'ailleurs, j'ai réussi parce que nos amis organisateurs se sont pas mal excités. Jean-Claude Moulin est là pour en témoigner. S'il était là, il le confirmerait. Mais voilà. Bon, c'est vrai que, voilà, donc Edwige Pittel, championne de France, 49 ans, elle finit deuxième de cette étape dantesque. Bon, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Bon, c'est comme ça.
Est-ce que tu as vérifié les vélos à l'arrivée? Est-ce que tu as sous-pesé les vélos?
J'avais mon portable thermique, effectivement. Voilà. J'avais mon portable thermique et je vous certifie qu'il n'y a pas de...
Non, mais un bus.
De
un
moteur bus. Non, mais, Edwige Pittel.
Tu fais bien de le préciser parce que quand j'ai lancé ça en conférence de presse, immédiatement, les organisateurs ont cru que je parlais de ça, en disant qu'elle était soit dopée avec des produits, soit dopée avec le vélo. Mais c'était absolument pas ça que je voulais dire. C'était que quelqu'un de 50 ans soit toujours
quasiment la meilleure française en cyclisme. Et là, dans une épreuve internationale, avec, comme tu l'as dit, un plateau vraiment fabuleux, parce que des champions du monde, des filles qui ont participé aux Jeux Olympiques à Rio, qui ont brillé à Rio.
Médaille d'argent.
Et voilà, donc elle finit deuxième de cette étape, Edwige Pitel. Bon, est-ce que ça dévalorise pas un peu? Le débat est ouvert, je sais que, bon, beaucoup de personnes seront contre moi, mais je sais quand même que certaines sont quand même assez d'accord avec moi.
Laurent.
Oui, vous avez parlé du tour de l'Ardèche, mais avec une étape lausérienne.
Non, mais pour cycliste féminin international de l'Ardèche. TCFIA. Tour cycliste féminin international de l'Ardèche.
Les sportives sont internationales.
Non, mais les créateurs. Il est né en Ardèche. Il est né en Ardèche, ce tour.
Allez, c'est trop long, on s'arrête là parce que sinon on ne pourra pas faire les pronostics.
Il n'y
a pas une cycliste brésilienne qui a dormi chez toi d'ailleurs dimanche soir.
Non, pas du tout.
Celle qui a fini 28e là du.
Non, je pensais si le département de la Lozère met des ronds dans ça. Et qui apparaît pas dans l'intitulé du tour, c'est un peu ballot, je trouve. C'est dommage.
Si tu mets le nom de tous les sponsors, ça s'appelle le tour Castorama international du département de Lozère et de l'Ardèche. De Well Done et
ils ont leur nom de l'affiche et finalement ça se passe en Lozère et la Lozère qui racle et qui a pas de retour.
Ça se passe aussi dans le Vaucluse.
Au niveau des télés, il y a rien.
Ça s'est passé dans le Vaucluse parce qu'il y a eu une arrivée d'étape au moment d'où. Donc c'est quand même fabuleux que des organisateurs l'autorisation d'arriver au Ventoux. Donc il faut souligner le travail de ces bénévoles.
Le prochain qui parle fera ses pronostics en premier. Oui,
vous
Laurent.
Vous disiez qu'il y avait donc des filles qui étaient aux Jeux Olympiques dans cette compétition. Ouais. Il y avait une autre sportive qui était aux Jeux Olympiques et qui est venue faire du sport ce week-end à Mende.
Ah.
C'était des joueuses du Montpellier Hérault féminin qui ont joué samedi sur le COS avec notamment dans l'effectif une fille
et là il y avait personne
en Suède
aucun spectateur
qui a donc joué la finale de
moi je voulais y aller mais je
la finale tu t'en fous en fait qui a joué la finale
non de, ça m'intéresse 8
des Jeux Olympiques
contre
l'Allemagne une Suédoise alors j'ai mangé son nom mais elle était là au COS
Larsen
devant 8 spectateurs
allez mais oui c'est et bien personne. Dommage ouais. Très bien, merci. Allez, une pause musicale avant de faire nos pronostics, parler un peu de Rio. Il est déjà 1h15, il nous reste qu'un quart d'heure. Aïe, aïe, aïe.
Aïe, aïe,
c'est
aïe,
parti,
aïe.
Un morceau choisi par Laurent.
Broken me and broken.
Non, mais tu ne demandes pas des indices pendant la pause, Laurent. C'est quoi cette histoire? C'était Aurora Conqueror. Allez, on est parti pour l'actu nationale, internationale. On va vite revenir sur les JO, parce que si on n'y revient pas dans cette émission à cette heure précise, on n'y reviendra jamais. Aurélien, toi, tu as pu regarder un peu les JO?
Oui, dans la limite du raisonnable, puisque la plupart des épreuves étaient un peu de nuit, surtout les finales. Mais j'ai suivi ça d'un œil attentif et je me suis bien régalé.
Allez, l'image qui t'a marqué, ton coup de cœur, que ça soit en positif ou en négatif.
Faillite du basket masculin.
Ah ouais, ça va pas être mon coup de cœur, ça c'est sûr, celui-là.
Mais ça peut être le départ de Parker.
Non, le coup de cœur, c'est quand même Usain Bolt, quand même. Encore trois médailles d'or, quand même. Laurent me fait des signes. Non, pas ce qu'il a fait en boîte après les JO,
mais pas plutôt
pendant les JO.
Avec les Brésiliennes.
Usain Bolt, okay. Pendant les JO, c'est mon coup de cœur.
Il a goûté aux couleurs locales.
Je pense qu'il les goûte à chaque fois, sauf qu'on l'a su que cette fois-ci.
Et aussi Elodie Clouvel en pentathlon, mais ça pour d'autres raisons. Tout à fait personnelles.
Tu sais quoi, après notre réunion de rentrée Instant Sport au bar là pour en préparer, je retrouve des notifications sur mon compte Facebook d'Elodie Clouvel. Alors il faut savoir que Laurent m'a abonné à toutes les sportives. Alors, je ne connais pas la moitié, mais bon. Patrick.
Alors moi, vraiment, j'ai adoré une judokate qui a été championne olympique. Elle s'appelle Emilie Andéol. Personne ne la connaissait. Et moi aussi, je la connaissais, je dois reconnaître, quasiment pas. Et donc, elle a été médaille d'or le même jour que Teddy Riner. Donc, c'est vrai que c'est compliqué médiatiquement d'exister quand tu gagnes ta médaille le même jour que ce super champion. Voilà, j'ai trouvé cette fille vraiment hyper attachante. Donc elle pleure avant le combat, elle pleure après le combat, et donc elle expliquait récemment que ben là elle s'est calmée, mais en principe elle pleurait pendant le combat. Et alors qu'elle a quasiment, elle a 30 ans je crois, ou tout à.
Mais comme Laurent pendant les émissions.
Et donc une fraîcheur de cette championne qui m'a vraiment réconcilié s'il le fallait. Avec le sport amateur, puisque bon, même si elle s'entraîne tous les jours, c'est incomparable avec les salaires d'autres sportifs. Et j'ai vu pas plus tard qu'aujourd'hui une interview d'elle où elle explique franchement sa condition, puisqu'elle combat dans la catégorie la plus lourde. Et donc elle dit qu'elle a souffert quand elle était gamine de cette image un peu de la grosse. Et bon, en plus, elle aussi, et elle le dit, elle a souffert de cette image de black. Donc elle était grosse et black, et donc elle explique vraiment sans détour ce qu'elle a vécu dans son enfance, dans son adolescence, et donc le judo lui a permis justement de franchir tout ça, et aujourd'hui elle est championne olympique, et sa fraîcheur, son témoignage, franchement je lui tire mon chapeau, et c'est quelqu'un vraiment que j'aimerais rencontrer, quoi.
Ok, bravo. Avant de parler de beach volley, Christophe, ton image des JO, ton coup de cœur peut-être?
Le golf. Vraiment, le golf. Le sport olympique par définition, avec les meilleurs de la planète qui viennent. Vraiment une compétition extraordinaire.
Des moustiques.
Non, évidemment, je représente le golf. Moi, je jetterai ça par la fenêtre. Sinon, la boxe, j'ai trouvé vraiment que la boxe, les 6 médailles, là, c'est un petit fraîcheur. En plus, ça part de Londres avec un bilan assez catastrophique, avec Vatine, tout ça. Bon, oui. On va pas revenir là-dessus. Mais voilà, et là, ils reviennent. T'as l'impression que les mecs, ils ont un peu pensé le truc, qu'ils ont bossé, et ça paye.
C'est l'inverse de la natation par rapport à Londres, c'est vrai. Laurent.
Ouais, moi je suis comme Patrick là avec cette nana au judo là qui a vraiment qui a ému toute la France d'ailleurs quand on l'a su.
Ça tu vois, comme il a vu que le beach volley, il sait pas quoi dire.
Non, je suis pas du Patrick.
Il n'y a pas de française au beach volley, il n'y a pas de française.
Ça a l'air pas mal ce qu'il a raconté.
Je me suis rendu compte. Mais c'est le petit coup de cœur. Mais sinon après j'ai pris plaisir avec les équipes de France de handball, les garçons et les filles.
Avec des
matchs qui se finissent toujours là. Quand t'as 3 secondes de la fin, tu claques un but, je veux dire, donc là, t'as ton cœur, il est à 200, quoi. Et vraiment, bon, les finales ont été un tant soit peu ratées, mais le parcours a été géant, quoi. C'était sympa.
Ok, parfait, merci Patrick. Moi, c'est Kevin, le décathlonien.
Kevin Mayer.
Qui s'entraîne à Montpellier. J'avais vu un reportage avant sur lui, sur une chaîne cryptée, et ça m'a donné envie de le suivre, et je l'ai trouvé génial, ce mec. Ligue 1, le mercato vient de se terminer, c'est un peu pauvre cette année, on est tous d'accord. Hein, on peut dire bravo à Nice qui prend Belanda et Balotelli, encore que Balotelli, on ne sait pas trop. À part ça, bon, Marseille, on n'en parlera pas, bien que les derniers jours du mercato...
C'est pas mal, il y a une recrue, américaine mal. Quand même, et pas des moindres.
Il y a Kashkar qui arrive. Non, non, Marseille, c'est vrai qu'avant le dernier jour, j'avais un peu peur, et là, c'est pas si mal.
Tu as acheté un vainqueur.
En tout cas, au niveau de ma courte, nouveau, bon, qui va être propriétaire dans quelques semaines, ta définitivement, courte, et j'ai apprécié son épouse, par contre. Je veux dire que Monica, elle est vraiment... Elle me plaît.
Ouais. On va faire les pronostics Ligue 1, les trois premiers, et après les trois qui descendent dans le désordre, on s'en fiche un peu. Il y en a un qui a fait des notes, qui a travaillé toute
la nuit,
qui prend son papier. On va laisser parler en dernier parce que vu que c'est lui qui a toujours raison,
il est magnifique. Hein,
ça serait trop facile de
tout est là,
de
tout est
noté, de pomper ses infos. Trois premiers, Laurent, Julien.
Alors les trois premiers, c'est pas surprenant. Paris, Lyon, Monaco, les trois équipes qualifiées pour la Ligue des Champions.
Ok, les trois descentes.
Les trois descentes, alors Dijon, Nancy et Metz.
Les trois promus.
Mais tu sais que là,
il y a des barrages. Il y a des barrages pour le 18e.
Oui, donc mais ça,
il y a deux qui descendent dessus, puis après, il y a des barrages avec le 3e de Ligue 2.
Ouais, mais ça, on compte pas.
Hein. Ouais, d'accord. Voilà. Bon.
Christophe.
Dijon, Nancy et Metz, donc, hein, pour les défenses. Pour les descentes. Je trouve ça bien.
Tu gardes, ouais. Mais il y a toujours un promu qui se maintient.
Ouais, les gars, c'était avant. Suivez la foot. Là, ils sont à la rue cette année.
Ok.
Et pour le trio de tête, alors on va essayer d'être un peu original. Je vais mettre Lyon, parce que je trouve que...
En 1 ?
Il ne faut pas se fier à leur dernier résultat, je pense. En 1, en 2, Paris, et en 3, Marseille.
C'est osé, ça. Marseille, non. Certainement pas.
C'est
Aurélien.
Osé, ouais. Moi, pour les trois premiers, j'ai mis Paris, Lyon, Monaco. Voilà, du classique, comme Laurent. Et pour les descentes, j'ai mis Nancy, Dijon et Lorient.
Pas mal, ça. C'est possible. C'est exactement ce que je voulais mettre.
C'est vrai que Lorient, pourquoi on les avait éclatés 2-0, c'est que. c'est une grosse équipe, quoi.
Allez, moi, je vais prendre la suite avant que Patrick finisse. J'aurai sur les mêmes descentes que toi, hein, Dijon, Lorient et Nancy. Je ne laisse pas Lorient cette année. Enfin, chaque année, on dit ça. Et Paris, Lyon, Monaco.
Va dire.
Monaco
il hésitait.
Je garde Monaco. Ah ouais, je suis désolé, je ne vais pas faire dans.
Non, il n'y a pas de suspense.
Il n'y a pas de suspense, mais Patrick.
Paris, Monaco, Marseille, parce que bon, je suis quand même un peu chauvin. Obligé, hein, donc, j'espère qu'au niveau du mercato hivernal, on va avoir 2-3 recrues qui vont nous permettre, si on n'est pas trop loin, après les matchs aller, d'enquiller sur le podium. Après, au niveau des descentes, Nancy, je les vois vraiment bien. Après le reste, c'est vrai que j'hésite, mais par rapport à vous, je mettais pas ces clubs-là. Mais le problème, c'est que j'ai pas trop d'autres clubs en tête, donc
Saint-Étienne.
J'ai pas, non, pas Saint-Étienne quand même.
Toulouse peut-être.
Non. Non, Toulouse parce que Duprat. Alors Duprat, je vais vous donner un scoop quand même. Pascal Duprat cet été s'est marié dans le village où je suis né, à Barbantane. Donc il s'est marié avec...
Avec ta tante.
Presque. Alors tu vois, c'est marrant que tu dises ça, parce qu'il s'est marié avec justement la tante de quelqu'un que je connais très bien. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il a fait la cérémonie et l'apéritif sur la commune où je suis né. Donc je ne peux décemment pas le mettre comme quelqu'un à la descente. En plus, je vois pas
Duprat. Il doit être pas mal à l'apéritif, Duprat. Hein,
ouais. Il y a une bringue d'ailleurs, il paraît extraordinaire. Après, je sais pas, il y a Nantes qui m'inquiète, franchement. Ça m'inquiète.
Ils
vont
gagner 4 matchs 1-0 et c'est fini.
Ça m'a inquiété dès le départ parce que je me suis dit comment Gérard va pouvoir cohabiter avec ce tandem infernal de franco-polonais. Où le père est propriétaire du club et le fils est président, directeur sportif, directeur général. Donc
je connais un autre club comme ça qui marche très
je
bien.
Je sens que ça va être assez explosif et ça a d'ailleurs commencé parce que le mercato n'a pas pu à Girard et donc il y a déjà la réponse de Kita Père et voilà.
Donc de toute façon, Girard n'a pas fait l'unanimité des supporters.
Allez, les trois descentes là, on y va.
Eh ben, Nancy, Nantes et le troisième.
Montpellier.
Ça fait 6 minutes qu'il parle, mais il a toujours pas répondu à la question.
J'ai deux. J'ai dit Nancy, Nantes. Peut-être. Je vais dire Metz. Tu as raison.
Allez, ok, c'est parti.
Tu parlais de Montpellier, mais Montpellier, si tu marques pas un but, si tu comptes sur Souleymane Camara pour gagner un match.
Montpellier, comme l'an dernier, on finira devant l'OM. Je te le dis. Comme l'an dernier, pareil.
Alors ça.
Le rugby, allez, Stade Français, Clermont 30 partout, Castres 18, La Rochelle 26, Lyon 32, Grenoble 13, Pau 25, Bayonne 9, Toulon 21, Brive 25, Bordeaux 15, Montpellier 32, Racing 92, 28, Toulouse 14, qui, allez, la finale et qui sera champion. Comme ça, on donne la finale aussi. Racing, Montpellier, Racing champion. À toi, Laurent.
Attends, laisse-moi réfléchir d'abord.
D'accord, à toi, Patrick.
Donc moi je dirais Toulon contre Clermont et victoire de Toulon.
Eh oui, Clermont en finale, ça marche pas. C'est bon Aurélien ?
C'est bon.
Eh oui, parce qu'il avait pas prévu le finaliste, alors tu vois, il est un peu...
Racing Montpellier ?
Non, c'est ce que j'ai dit.
Comme ça. Toi, oui, mais Montpellier champion, moi je dis.
Bien, c'est mal barré, hein, mais...
Christophe. Moi je mets Clermont face à Montpellier, comme ça Montpellier ouais. Champion.
Comme ça, bon... Ouh. De Montpellier champion, ça devient n'importe quoi cette émission. US Open, 8e de finale, les Français ont brillé. Tsonga, mon fils Lucas Pouille, qualifié pour les quarts.
D'ailleurs, il y a mon fils Pouille, un quart. Ouais. Donc, il y a un Français, un demi.
Ouais. Ouais.
Et Tsonga, on sait contre qui
Djoko.
Ah mince, c'est ballot ça.
Le Joker.
Contre le Joker.
Donc, il n'y aura qu'un Français, un demi.
Il n'y aura aucun. Et est-ce qu'il tombe contre Djoko ou pas?
Oui.
Ah, un donc il n'y aura pas de français en finale.
Djoko.
Allez, c'était bien cette US Open. Allez, on finit par l'NBA rapide, comme chaque année.
Attends,
Laurent,
tu sais que
vas-y,
moi j'ai
un plaisir.
En finale de rugby, puisque tu ne me l'as pas demandé.
Ah pardon, ouais,
c'est bon. Ouais, ouais, je préfère le dire parce que si jamais ça se produit,
d'accord,
on pourra sortir la bande. Donc je verrai bien Stade Français contre le Racing, une finale parisienne.
Ah, c'est pour ça que je ne suis pas demandé, parce que je savais que tu allais
avoir raison. Comme 1898 voilà. Ou 1899. Voilà.
Et donc, alors cette année, je mettrai le Stade Français.
D'accord.
Voilà.
Très bien. Le Stade
Par
Français.
Par contre, si ce n'est pas du tout ça, tu ne ressors pas la vidéo. La bande, ce n'est pas la peine.
D'accord, pas de souci. Tiens, la NBA, Laurent.
Tant que tu dis des bêtises, ouais. Enchaîne sur la NBA.
Les finales et qui est vainqueur, pareil.
Ben moi, évidemment, je vais dire Portland.
Normal. Grand favori de la côte ouest.
Contre qui ? Contre
New York, Cleveland, Chicago.
Non.
Boston.
Utah, là, il y a bien quelque chose qui s'appelle.
Utah, ils sont à l'ouest. Aussi.
Ils sont de l'autre côté.
Rudy Gobert.
Ben je sais pas contre qui vous voulez.
Et Boris Dio, mais non.
Oui. Donnez-moi des noms parce que je les connais pas.
On te l'a dit.
Boston. Toi,
Boston.
Boston ?
Ouais, c'est pas mal.
Ouais, c'est pas mal. Ouais.
Portland, Boston.
Ouais. Mais Portland, cette année, il y a eu des recrues, là, pas mal. Donc, donc je pense que ça va.
Ils disent ça avec une conviction.
Ça va être une saison encore meilleure, puisque l'année dernière, on est quand même allé en quart de finale.
Non, en finale de. Non, demi-finale non. Conférence ?
Non, ouais. Quart de finale.
Demi-finale de conférence.
Demi-finale ?
Demi-finale. Ouais.
Ah, ben alors, tu vois, c'est encore mieux.
Finale. Oui, mais donc, c'est les quarts de finale, parce qu'après,
c'est
les quarts
de finale. Du
tableau final.
Du tableau final, voilà. Et voilà, donc je vous dirai pas plus, je ne connais pas d'autres équipes.
Ok, très bien. Donc, Christophe.
Après moi, Golden State, ils vont être intouchables, c'est ça ?
Ouais, hein, je pense. Ils
ont acheté l'autre meilleur joueur, donc visiblement.
Kevin Durant.
Voilà, il faut que Michael Jordan revienne pour les Bulls, et j'y croirai.
Et tu vois qui est en face ? Tu connais un peu Alès aussi ?
Allez, on va dire Parker, non ?
Ils sont à l'Ouest aussi.
Non, oui, d'accord. Portland.
Portland. Non, Portland,
ils ont fait un gros mercato, Portland.
Putain, c'est bien. C'est du même niveau que Laurent en basket, ça fait plaisir. Putain, vous allez être sympa, on va vous laisser parler de basket. Non, mais de toute façon, on s'en fiche, c'est Golden State qui sera.
Ah, bah c'est évident, tu prends.
Non, ouais. T'as dit Portland.
C'est... Non, mais je dis Portland, nous, dans notre conférence. Après, bon, mais c'est Golden State, c'est sûr.
Mais non, ils sont dans ta conférence.
Non, ils sont à l'autre côté.
Non, c'est à l'ouest. C'est
dans la même.
Non,
c'est
ils sont pas dans la même conférence.
C'est San Francisco, Golden State.
Golden State ne sont pas dans la même conférence
le
que nous, j'en suis sûr.
Nord.
C'est Oakland, donc c'est côté ouest.
Ah ouais.
Très bien, allez, on revient un peu au sérieux, Aurélien.
Allez, mais moi je vois une finale Cleveland-Golden State, la revanche de l'an dernier avec Golden State vainqueur. Je ne suis pas très original.
À l'ouest, c'est vrai qu'il va y avoir un duel terrible entre Golden State et San Antonio, à mon avis, puisque... Bon, même si San Antonio a perdu Boris Dio, ils ont quand même récupéré Pau Gasol. Et donc, bon, même si l'intérieur emblématique...
Paul Gasol.
Comment il s'appelle déjà
Duncan.
Ouais, Duncan est parti à la retraite. Bon, je pense quand même qu'ils ont une équipe encore solide. Donc avec Golden State, bien évidemment, renforcé par Kevin Durant. Mais n'oubliez pas quand même Oklahoma, même s'ils ont perdu Durant, ils ont récupéré... L'Auvergne, notre français pivot, ils ont quand même une équipe avec Westbrook qui peut quand même créer la surprise.
Donc à l'ouest, c'est énorme. Et puis à l'est, bon, franchement, je vois que Cleveland avec LeBron James. Après les autres, New York. Bon,
New York, qui peut créer la surprise.
Ouais, New York a pris Noah, après Joakim Noah. Mais,
Derrick Rose bon, aussi.
Derrick Rose, il faut voir. Miami, il y a toujours Dwayne Wade. Bon, ils ont fait quelques recrues aussi.
Non, il est parti à Chicago, Wade.
Ouais, bon, ben voilà, donc encore mieux. Donc, bon, voilà.
Alors qui
à l'est, il y a moins. Cleveland contre ou San Antonio ou Golden State.
Non, tu dis pas où, c'est des paris, c'est pas... Donc
Cleveland, San Antonio, et je vois San Antonio
joker, vainqueur. Tu sais.
Et pour les descentes.
San Antonio ouais. C'est bien ça. Non, les descentes.
Il n'y a pas de descente.
Ça marche pas.
Il n'y a pas de descente.
Golden State, New York, ouais. Et victoire de Golden State, normal. On finit, allez, dernier pari, billet, non, alors je ne vais pas dire de bêtises, parce qu'on a essayé de me piéger tout à l'heure. Biélorussie-France, vite fait, Laurent, allez. Combien?
Biélorussie-France, donc c'est en Biélorussie, je dirais victoire 1-0 de la Biélorussie.
Très bien, ça commence bien.
Ça a toujours été très difficile.
C'est la grosse cote. Hein.
Allez, 2-0 la France, Giroud. Giroud, normal. Patrick.
3-1 pour la France.
3-1 pour la France, ok.
2-0 pour la France.
Mais c'est ce que j'ai dit, arrête de me pomper là.
S'il te plaît.
S'il te plaît, normalement c'est toi qui a raison, c'est pas moi.
D'accord, on verra.
On reste sur ça.
1-0.
1-0.
Pour qui?
Pour la France, pour la France. Pour la France.
Oui, n'importe quoi.
But de Gignac, pour de rentrant à la 90e minute.
But du Tigre. Il y a encore Gignac là? Ils l'ont repris? J'ai pas suivi là. Ça me... Le match amico, ça m'intéresse.
Oui, il a joué contre l'Italie. Il est entré en cours de match.
Allez, ok. Parfait. On vous rappelle, on vous donne rendez-vous lundi prochain, 18h, 19h30, au Bar Le Commerce, avec les quatre coachs des quatre clubs lausériens, MVL, RCML, AFL et MGC, bien entendu. Venez nombreux, n'hésitez pas. Nous, on y sera un peu avant. Venez boire un coup avec nous avant et après. Émission donc en public et en direct, un horaire qui change. On vous le rappellera toute cette
1h30,
semaine.
1h30, un format XXL.
Ouais, un grand format, parce 1h30, qu'on a beaucoup minimum. De choses à dire. Minimum. Oui, vu comme on parle avec deux résultats, c'est pas gagné. Ok les gars, merci. Merci Christophe, ça s'est bien passé cette première.
Super.
Bon, tu nous bois un peu trop de vin, mais on va essayer d'y remédier.
Je viendrai avec ma bouteille.
Voilà, la prochaine fois. Allez, ciao tout le monde, à lundi prochain.
Salut,
bye.
À bientôt. Au revoir.
Leslie John au couloir en numéro 2. Allez, c'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, si t'as remarqué. Je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
Du tas de
la qualification pour la demi-finale de la Coupe.